Évoquer les temples du soleil, évoquer ces temples qui sont là-bas, du côté des Amériques, c'est un voyage dans le temps, dans l'espace bien sûr, mais aussi un voyage dans une formule que je dirais économique, parce qu'après tout, les précolombiens, ces gens qui sont nés bien avant Christophe Colomb, il y a des millénaires, peut-être même 50 000 ans avant Christophe Colomb, lorsque les premiers ont passé le détroit de Bering, ces hommes-là ont immédiatement remarqué, comme tous les hommes de la planète, qu'il y avait des choses dans l'espace qui se déplaçaient, qu'il y avait le soleil, qu'il y avait la lune, qu'il y avait une planète étrange qui s'appelle Vénus, qui avait un mouvement très curieux, qui montait, qui descendait, qui apparaissait, qui disparaissait. L'astronomie, oh, la cosmologie comme on l'appelle, c'est un peu le côté pointu de ces Indiens d'Amérique. Ils ont toujours aimé connaître ce temps et cet espace en ouvrant les yeux, le jour, la nuit, pour bien connaître le temps et sa valeur. Par une nuit de pleine lune, je me suis trouvé un jour juste en face de l'observatoire de Chichen Itza. Je vous décris un peu la scène. L'observatoire de Chichen Itza, d'abord c'est un site archéologique, bien sûr, c'est un site qui se trouve au nord de la péninsule du Yucatan, là-bas du côté du Mexique. Et lorsqu'on a le droit, parce que c'est interdit, d'être là la nuit, on remarque si la lune est bien pleine, si elle s'est levée. Oh, il y a des soirs où elle se lève comme cela. Elle ressemble terriblement à un plateau orange de forme parfaite. Elle est même un peu écrasée au départ. Et il y a quelque chose qui est troublant, c'est qu'autour de vous, la température, on a l'impression qu'elle change. On a l'impression aussi que la nuit devient plus claire. Et tout à coup, en plus de la lune, il y a des lucioles qui s'éveillent un peu partout. Mais pas une luciole, non, des millions, je dirais même des milliards de lucioles. On a l'impression tout à coup d'être dans une sorte de lait, une sorte d'étoilement constant, une sorte de voie lactée, c'est vrai. On est à l'intérieur de la voie lactée et en même temps, on voit ce mouvement très lent de la lune qui monte et tout à coup, en se déplaçant sur un gazon qui devient humide, sur une herbe qui est cette herbe comme on la retrouve dans la jungle, dans la savane du Yucatan, vous avez ce bâtiment étrange qui s'esquisse à l'horizon. Vous avez tout à coup cette forme qui ressemble à une tour qui aurait été un peu abîmée par le temps. Et puis, tout à coup, vous êtes au bon endroit. Vous avez deviné une petite fenêtre au sommet. Et derrière, il y a ce disque lunaire qui maintenant est devenu plus clair, plus argenté, plus blanc. Et cette petite fenêtre vous fait penser qu'effectivement, il y a un millénaire, ou peut-être en tout cas 800 ou 900 ans, les Mayas, ces Mayas Toltec, puisqu'on les appelle comme cela, il y a eu deux cultures qui se sont mélangées. Là, à Chichen Itza, des gens qui vivaient au Yucatan, des gens qui sont venus peut-être du nord par étapes successives et qui petit à petit vont apporter un nouveau style et qui vont créer la dernière architecture de cet observatoire. Et là, tout à coup, vous vous dites qu'au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, on a su analyser cet observatoire et remarquer qu'il y avait plus d'une vingtaine de possibilités astronomiques. C'est-à-dire, vous allez retrouver les solstices, les équinoxes, bien sûr les passages au zénith, mais aussi cette façon étrange qu'a la Lune de se balader dans l'espace, de renverser sa jarre. Parce qu'au Mexique, c'est une véritable jarre. Elle n'est pas comme chez vous en C ou en D. Non, elle est en U ou en tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a une forme qui s'augmente par le bas. On a toujours l'impression qu'elle se renverse comme un vase. Enfin, les précolombiens ont toujours prétendu que c'était une jarre de pulque ou en tout cas d'alcool bien moussu qui se renversait comme cela petit à petit au cours du temps. Et puis, ils avaient justement remarqué depuis cet observatoire, depuis l'intérieur de cet observatoire, qu'au fond, à l'horizon, il y avait cet étrange point lumineux plus fort que les autres qui montait et qui, oh, il fallait bien une trentaine d'années d'observation, qui tout à coup nous disait que pendant 8 jours, il allait disparaître sous l'inframonde, là-bas, à l'intérieur de cet inframonde, et qu'ensuite, elle remonterait. Nous allons tenter d'évoquer ces 20 données astronomiques que l'on a remarquées ici dans cet observatoire. Il fait toujours nuit, la lune est encore montée à l'horizon, et puis vous avez surtout remarqué que pour grimper sur l'observatoire pour voir véritablement, enfin pour deviner ses observations malgré le côté en ruine de la construction, il a fallu d'abord pénétrer dans une sorte d'étrange tunnel, une construction avec une voûte maya, ces voûtes à encorbellement qui n'en finissent pas de grimper vers le sommet et qui se terminent simplement par une pierre posée en dessus, donc ça n'est pas une véritable voûte. Vous avez pénétré par une porte, vous avez trouvé un couloir, vous avez fait une sorte de demi-cercle pour trouver à l'intérieur même de la construction une autre porte. Vous avez pénétré dans un deuxième tunnel en forme arrondie. Et là, tout au centre, au cœur même de la construction, vous avez remarqué que les murs grimpaient, si vous voulez, de façon étrange en revenant contre vous. C'est-à-dire que la voûte elle-même finit un peu comme un champignon. Et tout en haut dans l'obscurité, vous avez remarqué une ouverture. Or, vous avez dû utiliser une échelle si vous étiez précolombien, on vous a peut-être aidé si c'est aujourd'hui, si c'est dans cette nuit de pleine lune. Et là, vous avez pénétré à l'intérieur d'un colimaçon étrange dans la maçonnerie. Et là, tout au sommet, vous avez redécouvert l'astre que vous observiez tout à l'heure. Et puis, d'un seul coup, toute la voûte céleste. Le grand Pythagore prétendait que c'était dans la contemplation, dans cette contemplation du mouvement des astres, que résidait la clé, cette clé de l'harmonie de l'univers. Il avait peut-être raison. Et pour les précolombiens qu'on étudie aujourd'hui, je vous dirais que c'est un peu la même chose, parce que quand on imagine là-haut, dans cet observatoire, combien de nuits, combien de journées ces astronomes de Chichen Itza ont dû passer pour étudier ces phénomènes célestes, on commence à penser. On regardait cette voûte céleste constellée d'étoiles, on s'imaginait cet observatoire, et puis ces dernières découvertes, ces astro-archéologues, comme on les appelle aujourd'hui, qui ont dénombré 21 alignements, des alignements architecturaux en définitive, et qui ont pu trouver un rapport avec cette astronomie tout à fait précis. Alors, d'ici, les Mayas ont pu repérer, je vous l'ai dit tout à l'heure, les solstices, les équinoxes, les transits, ce fabuleux transit zénital. Il y en a deux à Chichen Itza par année, ce transit du Soleil. Et pendant des siècles, ils vont suivre l'évolution de cette planète Vénus. Mais je vous dirais que tout a commencé il y a bien plus longtemps. Là, d'un seul coup, ma pensée traverse l'espace et je me retrouve dans un endroit. Ah, la température vient de monter, c'est vrai que l'air est humide. Vous êtes dans une zone qui fait vraiment penser à la jungle. Vous apercevez entre les feuilles géantes, je dirais pas une pyramide, je dirais un monticule, quelque chose d'assez curieux qui monte à 20 et quelques mètres de hauteur parce que il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Mais vous avez l'impression tout à coup que il y a quelque chose d'artificiel dans ce lieu. Vous avez marché pendant des heures, vous auriez roulé aujourd'hui pendant des heures sur cette route de la côte du golfe du Mexique. Vous auriez remarqué à l'horizon quelques flamèches parce qu'il y a du pétrole. Vous auriez remarqué aussi de temps à autre des marécages, de l'eau un peu partout. Et puis cette impression que il n'y a pas que des batraciens, il n'y a pas que des moustiques, mais qu'il y a vraiment une vie intérieure étrange, partout de grands fleuves, des estuaires. L'impression que l'eau peut, un peu comme dans cet estuaire de l'Amazone, l'impression que tout peut se perdre, qu'une rivière est capable de se perdre sur ce terrain, sur cette boue constante, et vous êtes finalement à la Venta. Vous avez remarqué qu'il y a peut-être 2000 ans, comme je le disais, tout a commencé ici, et que cette fait ici à La Venta que les premiers astronomes, ces astronomes méso-américains, se sont mis à l'œuvre. Alors ils vont donner à l'architecte des mesures. Il y aura tout à coup une sorte d'orientation parfaite. On va voir que ce site est très précis et qu'il y a cette construction, en fait, cette pyramide conique que l'on vient de découvrir. Ça n'est qu'un tas de boue, ça n'est qu'un tas d'herbes, ça n'est qu'un tas de végétation mêlée à cette terre aujourd'hui. Mais cette première construction était censée monter. Tout simplement, je dirais monter vers le ciel parce que c'est une véritable imitation. Une imitation involontairement sur la route, il y a 100 ou 130 kilomètres, quand vous descendiez de Veracruz, que vous avez passé Catemaco et son lac d'Opale, vous avez été dans une région un peu montagneuse, un peu étrange. Vous avez senti qu'on avait cette impression qu'il y avait eu ici des volcans, une activité volcanique étrange. Et là, vous êtes devant cette fausse montagne, vous êtes devant cette imitation d'un volcan, vous êtes à plus de 130 ou 140 kilomètres d'un véritable volcan, et vous vous dites qu'on a voulu, par de la boue, qu'on a retiré de l'eau, qu'on a fait grimper comme ceci, petit à petit, par remblais interposés, pendant des jours, pendant des mois, on a voulu imiter, faire une fausse montagne, qui est voué aux forces de ces mondes obscurs. Parce que cela, on le ressent aussi. On a une tête pour penser, mais on a aussi des tripes. On sent tout à coup, je vous ai donné le climat tout à l'heure, on sent tout à coup que cette sorte d'obscurité qu'on ressent dans la jungle, c'est quelque chose qui nous entoure de partout. Parce que cette jungle, elle est occupée par quelque chose que vous connaissez peut-être pour l'avoir regardé dans un jardin zoologique. Je vous avoue que j'ai croisé une seule fois dans ma vie un jaguar. Mais c'est vraiment cela la représentation, je dirais même l'incarnation chez un précolombien du soleil. De ce soleil qui, vous le connaissez de jour, mais essayez d'y penser comme tout à l'heure sur l'observatoire de Chichen Itza. Ce soleil, il est capable d'être nocturne, il est obligé là-bas dans cet inframonde de vaincre la nuit, il est obligé d'attendre son retour, ce retour journalier. Et c'est là que sera donné peut-être pour la première fois dans l'histoire américaine cet élan vers quelque chose de nouveau, je dirais une forme de spiritualité. C'est là qu'on va fixer pour la première fois les premiers rudiments de ce qu'on pourra bientôt appeler une religion. Et la religion des précolombiens, cette religion des Olmèques, puisque vous êtes dans la terre de ces Olmèques, dans cette jungle de la première grande civilisation du Mexique, que vous êtes devant cette fausse montagne, devant ce faux volcan, devant cette étrange pyramide, on a réussi quand même, en l'analysant un peu, à voir qu'elle avait une forme conique, c'est-à-dire qu'il y avait des sortes de couloirs qui descendaient depuis le sommet, vraiment comme si vous dessiniez le volcan parfait. Vous savez, ce volcan que vous avez déjà vu une fois ou l'autre en photographie, qui existe là-bas, du côté du Guatemala, ou même près de Mexico, enfin, ce volcan un peu comme le Fuji. Vous voyez la forme? C'est vraiment la forme pyramidale qui va faire rêver ces premiers hommes cultivés qui vont, grâce à cette puissance, grâce à la force de travail, édifier pour la première fois une construction. Et c'est ici, je dirais même, regardez où nous sommes sur une carte. Vous allez voir qu'on est à l'est du monde connu au Mexique. J'ai parlé du golfe du Mexique, c'est cet arrondi qui, à quelque part, regarde le soleil se lever. C'est cet océan où chaque jour, justement, on attend ce retour du soleil. C'est un endroit très précis. Et ce miracle du matin, ce miracle matinal, eh bien, c'est quelque chose... En fait, c'est curieux. Chez nous, j'ai déjà remarqué, et je le disais l'autre jour à propos des Chinois qui ont la même réaction, on a remarqué que chez nous, on adorait les couchers de soleil. Et très souvent, on prend des photos de couchers de soleil. Le précolombien ne s'intéresse pas beaucoup non plus à cette façon un peu morbide de voir le soleil mourir. Non, ce qu'il attend chaque matin à partir de 4 heures, à partir de 5 heures, c'est ce premier grouillement de la jungle où on a l'impression que les animaux se réveillent avant la lueur. On a l'impression que les bruits commencent déjà quand tout est encore grisaille, quand tout est encore... humide, mais une humidité très curieuse. Tout le monde évolue vers quelque chose de nouveau. Et on attend ce retour, bien sûr. On va pouvoir calmer ces terreurs de la nuit à l'instant où il y a ce miracle, cette obscurité toujours prête à ingurgiter. Attention, là, je pense au tigre, bien sûr. Je pense à cet animal féroce, celui qui va dévorer systématiquement et qui est capable de ne pas rendre ce fantastique soleil au petit jour. Priver ainsi le monde de toute vie serait vraiment l'horreur pour un précolombien. Priver l'univers de ce que j'appellerais son cœur, C'est un nom, d'ailleurs, c'est une forme de traduction que je fais à partir du précolombien, parce que le cœur de l'univers, c'est bien sûr le soleil. Et pour combattre cette terrible éventualité, je dirais aussi que l'univers a été parfaitement orienté. On va ainsi le contrôler. C'est un travail d'homme, et vous voyez que pour la première fois, l'homme est capable de contrôler l'univers qui l'entoure. Sur le site de la Venta, une étrange statue. On l'a placée dans le parc archéologique, là-bas du côté de Villahermosa, parce qu'il a fallu déplacer une quarantaine de pièces. Des pièces monstrueuses, parce que quand pour la première fois on rencontre un regard Olmec, on se dit quand même que ces gens-là ont peut-être construit une fausse montagne en boue, mais des blocs de pierre de 5 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes. L'impression d'avoir déplacé de la matière. On en reparlera tout à l'heure, mais cette image que j'aimerais évoquer, c'est ce singe. Un singe étrange, il a un peu une allure d'homme, comme ça, avec les deux bras placés en arrière, arc-boutés, comme cela. Il regarde le ciel. On l'a affiché, on l'a planté sur ce site. Oh, il pourrait très bien être à l'horizontale, ça ne me dérange pas. C'est un peu l'observateur, celui qui se concentre. Mettez vos mains derrière la nuque, des deux côtés. Et puis, vous écarquillez les yeux, vous regardez à l'horizon, vous cherchez à monter. C'est un peu l'image de cet observateur que j'évoquais tout à l'heure, la première fois où l'on a su regarder le cosmos, où l'on a su le contrôler. Et ce singe qui regarde le ciel, pour moi, c'est vraiment cette façon d'imaginer l'Est, cette attente du matin. C'est ce singe qui, la première fois, a hurlé comme cela aux alentours de 5h, 5h30 du matin pour appeler son harem de femelles. C'est le singe hurleur, c'est le singe araignée qui se balade dans les arbres et qui, tout à coup, commence à bouger. Il a terminé sa nuit, il a fini de dormir. C'est la vie, cette vie étrange dans la jungle qui vous pénètre au point d'avoir les doigts qui se rétrécissent, vous savez, d'avoir l'impression que nos orteils sont trop grands et qu'on a envie de se reprendre comme cela, d'éviter tout ce qui vous entoure, d'éviter cette vie, ce grouillement curieux. Et puis, il y a, pour la première fois, cette tête. Je crois que dans les années 1880-1890, quand pour la première fois on a réussi à extraire de cette boue une tête géante, Olmec, ça a dû être un spectacle absolument fantastique. Parce qu'une tête géante, ça signifie être devant un portrait de 2,60 m de hauteur. La tête numéro 1, elle nous interpelle un peu comme le ferait un Bouddha géant. Mais attention, elle est tranchée, cette tête. Je veux dire par là qu'elle est simplement posée sur le sol. Elles ont été renversées à l'époque dans des fosses, elles ont été peintes en rouge, on a placé des offrandes, enfin, mais au départ, elles étaient devant cette immense pyramide, elles étaient devant ces structures qui petit à petit maintenant sont édifiées sur cette île, parce qu'il s'agit bien d'une île, de la Venta, là, dans cette zone métropolitaine que les Olmecs vont faire surgir dans la jungle, là, toujours dans ce golfe du Mexique. Et cette tête, quand on l'observe pour la première fois, c'est d'abord ce regard. Un regard qui louche juste un peu, et puis ce nez épaté, et surtout, cette façon étrange de froncer. Et imaginez-vous ce que vous avez entre les deux yeux. Imaginez-vous ce que vous avez juste en dessus du nez et vous verrez que c'est un point très curieux. Froncez maintenant, faites un peu la tête et vous allez voir que, obligatoirement, vous avez un pli très curieux qui se forme ainsi, juste entre les deux sourcils. Et ce pli très curieux, c'est celui qu'on imagine aussi lorsqu'on est un jaguar. C'est-à-dire cette façon un peu féroce de se concentrer. Et puis en même temps, Vous allez observer la bouche de cette statue qui fait plus de 2 mètres de haut. Vous verrez que c'est véritablement un portrait, qu'elle ressemble à quelque chose de très humain, et pourtant la bouche est juste un peu basse. Les commissures sont juste un peu descendantes. On a l'impression d'une sorte de mou, d'une sorte de... pas de la férocité, mais en tout cas, l'impression qu'il y a quelque chose de fort, de puissant à l'intérieur. Eh bien, je vous dirais que, de façon un peu étrange, c'est une économie nouvelle qu'on est en train de voir se développer ici, à la Venta. Bien sûr, ces terres sont véritablement inhospitalières, on a l'impression que rien n'est fait pour la vie. Ces premiers chefs, parce qu'il y a eu des premiers prêtres, il y a eu des premiers mages aussi, c'est peut-être le terme qui conviendrait le mieux d'ailleurs, mages, de grands mages qui vont situer une économie en fonction de ce cosmos qu'on est en train d'étudier. Et on va aussi concevoir une économie à la dimension du cosmos, je dirais plutôt à sa démesure. Alors, imaginez la comparaison avec tout ce qu'on sait déjà. Imaginez ces têtes géantes avec ces regards perdus dans le lointain. On a l'impression que tout cela, comme le singe de tout à l'heure, eh bien, c'est quelque chose qui est fait pour interroger les grands espaces. Et au fond, quand on est comme cela devant ces têtes géantes, comme la numéro 4 ou la numéro 1, oh, je donne des numéros, mais chaque fois dans mon cerveau, il y a une autre image qui se présente, il y a quelqu'un qui pourrait avoir 30 ans, 32 ans, et puis la suivante, oh, je dirais qu'elle a peut-être 25 ou 26 ans. Donc j'arrive à donner un âge, j'arrive à donner une identité à ces personnages, et en même temps, par la force, par le gonflement de la pierre, par ces 20 ou 30 tonnes, il y a cette puissance, cette force de l'animal. Alors je pense que s'il n'y avait pas de différence de nature entre disons, le fonctionnement d'une société et la marche de l'univers, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment précolombien. Je m'explique. S'il n'y a pas de différence entre une société et ce cosmos, c'est qu'ils avaient remarqué que l'énergie était sans cesse dissipée. Regardez autour de vous. Un feu brûle. L'eau coule, le soleil se consume, on le sait depuis quelques dizaines d'années seulement. On sait que dans 5 milliards d'années, tout sera fini. On commence à se rendre compte que l'énergie est en transformation. Ils avaient surtout compris, ces premiers Indiens, ces premiers Olmecs, que les mouvements complexes du cosmos que l'on est en train d'étudier, bien, ça, c'était fait pour générer un véritable dépérissement. Génération, dépérissement, le temps lui-même devait être conçu de manière... Oh, je vais dire cyclique parce que je fais le mouvement avec ma main involontairement, et je dirais qu'ils ont toujours été prêts eux-mêmes à imaginer un temps qui se désintègre, qui se défait. Hein? Vous avez déjà une notion philosophique et une économie qui est différente de la nôtre. Vous étiez placé devant la numéro 4, cette tête étrange avec ces deux petites dents qui dépassent, cette lèvre toujours aussi toujours aussi retroussée comme les babines du jaguar. Regardez-la pendant un bon quart d'heure et vous allez constater qu'en fait, vous pouvez pratiquement penser comme un Indien, comme un précolombien. Penser que l'énergie humaine, elle-même, était capable de se dépenser elle-même, comme celle du soleil. Regardez le soleil comme il chauffe. Regardez ce côté dissipé, cette chaleur qui se dissipe, un peu comme la chaleur de votre propre vie. Comme votre vie qui s'écoule. L'échauffement, bah, pour un Indien, c'était la perte de contrôle de cette énergie. Et là, c'était le vrai danger. C'est ça qui devenait véritablement dangereux. Une simple erreur pouvait tout à coup menacer la stabilité du système. Et j'ai dit stabilité. On sent qu'il y a quelque chose de très étrange. Parce que quand on vit ainsi comme un Indien, dans une incertitude certaine, eh bien, je crois que c'est un peu le devenir du cosmos qui vous chatouille. Une incertitude qui pose problème pour votre avenir, pour un avenir d'homme. J'aimerais maintenant que vous regardiez une nouvelle image. J'aimerais que nous nous placions devant ce qu'on appelle un hôtel à la Venta. Vous êtes toujours sur ce site, vous êtes en train de le visiter mentalement, même si on a déplacé les pièces archéologiques jusqu'à Villahermosa, qu'on a créé un véritable parc archéologique parce que dans les années 40, on a découvert du pétrole, on a voulu faire une piste d'atterrissage sur cette île, on a voulu détruire ce site. Donc on a eu quelques mois pour le fouiller. Alors les hélicoptères sont arrivés, ils ont pris les pièces majeures, ils les ont transportées à une centaine de kilomètres, ils les ont posées dans un milieu ambiental presque semblable. Il y a de l'eau, il y a des alligators, il y a des petits singes, il y a quelques pécaries, quelques animaux qu'on a placés dans ce parc. Et vous êtes maintenant placé devant l'hôtel peut-être le plus étrange de la Venta. Oh, c'est difficile à imaginer. Un grand bar, quelque chose d'assez... comme une grosse table qui ferait 2 mètres à 2 mètres 20 de hauteur, qui ferait 25 tonnes, tout simplement. Et devant, une sorte de niche. Une niche arrondie comme une voûte. Et à l'intérieur, un personnage qui vous regarde et qui est assis en tailleur avec les bras posés sur l'avant. Vraiment comme posés sur ses genoux. Mais pas des bras, de véritables poteaux. Vous savez, quelque chose de très lourd, de très ferme. Et en même temps, une corde qui fait le tour et qui attache ainsi des prisonniers qui sont sculptés sur les côtés. Une table, le dessous, une sorte de grotte, la coiffe du personnage. Et puis surtout, cette puissance. Quelque chose d'incroyablement fort, cette volonté de contrôler quelque chose. Vous voyez qu'on est dans le contrôle de l'énergie de tout à l'heure. Vous sentez cette volonté aussi de statisme. Vous voyez cette recherche. Ah, ça c'est important. Je dirais la recherche d'un instant. Quelque chose qui est comme un mouvement figé. Ça c'est totalement précolombien. Cette recherche de retenue, cette volonté d'équilibre aussi. Ça se retrouve systématiquement dans chaque statue qui a été laissée par les Olmèques. On ressent devant ces œuvres d'art une impression de puissance, je l'ai dit, mais surtout une concentration fantastique, une force, quelque chose de hiératique que de manière symbolique, nous allons pouvoir expliquer par cette intention de canaliser tout excès qui serait possible, d'éviter toute dépense absolument inutile. Par l'image, on peut deviner une société. Vous voyez maintenant qu'elle est déjà structurée, qu'elle est prise dans un réseau extrêmement précis de lois, qu'il y a un respect afin d'éviter tout danger, tout cataclysme. Vous êtes déjà précolombien et pourtant, vous n'avez vu qu'une grosse tête olmèque, un petit singe et un hôtel. j'irai dans un salon, dans une maison privée, découvrir un collectionneur et puis voir pour la première fois une pièce Olmec. Là, dans une vitrine, être attiré par une couleur, le vert, et puis s'avancer et découvrir une brillance, quelque chose de très curieux, quelque chose qui ressemble à de la faïence, qui ressemble à du verre, qui ressemble à... C'est trop lisse, c'est trop patiné, c'est trop beau. Une simple hache. Une hache comme un coup de poing, comme ces coups de poing qu'on a travaillés à l'époque néolithique chez nous. Mais attention, travailler là-bas chez les précolombiens, chez les Olmèques que nous évoquions tout à l'heure, travailler avec un simple silex, et puis ensuite retailler, ensuite polir avec du sable, terminer peut-être avec du cuir, et finalement, prenez la paume de votre main, frottez, passez pendant des jours sur cette matière, jusqu'à ce que vous la transformiez en quelque chose de plus lisse que ce qui est lisse, de plus doux que ce qui est doux, de plus chaud que ce qui est chaud. C'est pourtant de la pierre, elle devient vivante. Vous venez de créer une simple hache, vous l'avez polie, elle brille comme un miroir, vous avez un goût de la perfection, vous êtes... Je dirais que vous avez réussi en quelques mois de travail, comme un artisan, comme un sculpteur, comme quelque chose que vous avez envie de transmettre à la matière, vous avez réussi à canaliser de l'énergie. Et puis vous avez fait quelque chose d'esthétique. Vous allez retrouver dans l'usage de ce travail, de la matière, vous allez trouver quelque chose qui ne peut être transmis qu'à la pierre. La pierre, c'est quelque chose de statique. C'est ce que j'appellerais, moi, quand je pense indien, simplement de la vie figée. Vous l'avez sortie de la vitrine, vous l'avez prise dans votre main, elle était glacée. Et puis, au bout de quelques secondes, la température commence à changer. Vous sentez que cette pierre se réchauffe, vous avez envie de la caresser comme le galet qu'on ramasse au bord d'une plage et qu'on garde dans sa main pendant des heures. On le tourne, on le retourne. Ça n'est plus du jeu, c'est quelque chose qui devient sensuel. C'est assez curieux. Et c'est une comparaison que j'ai toujours faite. Quand vous avez découvert pour la première fois un nouveau-né, et que vous l'avez touché pour la première fois, c'est exactement la même sensation, parce que c'est bien une sensation que l'on ressent, la même sensation qu'en touchant cette pierre verte. Des milliers de haches, des milliers de statues minuscules, 5, 6, 8 centimètres de hauteur. Une hache, oh, peut-être 15, elle pèse peut-être un peu moins qu'un kilo, elle a cette forme bien gonflée, bien arrondie, avec à la fin ce rasoir, cette partie, oh, pas agressive, non, mais simplement... taillé en forme arrondie pour montrer qu'on arrive à un résultat. Et à l'autre bout, une forme semi-arrondie qui tient bien dans la paume de la main. C'est un objet, un simple objet. J'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de perfection. Je dirais même que quand on voit où a été retrouvé cet objet, là vous êtes de nouveau non plus dans cette collection privée, ici à Genève, à Paris, à Berlin ou ailleurs. Non, vous êtes à nouveau transporté dans la jungle où on était tout à l'heure. Vous êtes à la Venta et là, vous savez que ces précolombiens, aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, peut-être 500 avant Jésus-Christ au plus tard, ont été privés de minéraux. Il n'y a que de la boue. Et en fait, il fallait chercher ces pierres, cette pierre verte en particulier, à des centaines de kilomètres. Il a fallu que ces artisans olmèques répondent à cette démesure de la nature par la démesure de leur travail, par la démesure de leur tâche. Vous y êtes ? C'est de la dépense. C'est encore de l'économie. Ils vont transporter, ils vont tailler, ils vont polir des tonnes et des tonnes de matériaux. Et je vous rappelle, ils l'ont fait sans outils de métal, simplement pour les offrir. Pour les offrir à la terre. C'est ça qui est curieux. On va aller chercher, je prends un autre exemple, des pierres qui sont un peu bleutées, un peu verdâtres. On aime cette couleur parce que on pense que c'est la couleur de la végétation, que c'est la couleur de la vie, que c'est la couleur de l'eau. On pense que c'est cette couleur qui ressemble au mot fertilité, au mot abondance. On est allé chercher des pierres bleues ou vertes à des centaines de kilomètres et puis on les a chargées sur le dos de ces Indiens parce qu'il n'y a pas d'animaux de trait, bien sûr. Vous avez simplement ce bandeau sur le front. Vous avez été depuis le golfe du Mexique jusqu'au Guatemala. Vous êtes parti jusque du côté de Guerrero, du côté d'Acapulco, là, pour simplifier les choses. Et puis vous êtes revenu à pied, chargé de 10, 20, 30 kilos, et vous avez simplement creusé une fosse. On a retrouvé une fosse de 17 mètres de côté et de près de 15 mètres de profondeur. Cette fosse a été creusée dans la terre glaise, dans ce limon de la côte du Golfe, et puis un Indien après l'autre sont arrivés et ont jeté simplement leurs 20 ou 30 ou 40 kilos de cailloux. Et ils sont repartis. Et ils ont encore été chercher des cailloux. Des tonnes, des dizaines, des centaines de tonnes de pierres de la même couleur, du même endroit. Vous remplissez la fosse, tout simplement avec de la caillasse de couleur. Et puis, finalement, vous terminez tout cela avec une couche d'argile blanc, de l'argile jaune, de l'argile rose, que vous aurez été chercher à des dizaines ou des centaines de kilomètres, simplement pour la couleur. Et puis, vous terminez tout cela en mettant de la terre normale. Vous finissez bien à plat. Vous êtes de nouveau sur le site. Tout est invisible, mais sous vos pieds maintenant, il y a une charge d'énergie et de travail que vous avez été chercher à des centaines de kilomètres. Il y a plusieurs tonnes de matière de cette couleur étrange, vert, vert bleu. Et là, vous avez réussi, par cette simple offrande de cailloux, à charger d'énergie un lieu, votre centre cérémoniel. Et les Olmèques ont fait cela des dizaines et des dizaines de fois. Ils ont transformé, ils ont transporté, ils ont taillé, ils ont poli, je le disais, des tonnes de matériaux, simplement pour les offrir à la terre. Ils ont enfoui des tonnes d'objets, de ces pierres colorées sous des tonnes de glaise, elles aussi colorées. Je me répète un peu, mais c'est le travail, c'est justement cette répétition, ce côté un peu cyclique. Toutes ces offrandes vont être vouées à ce soleil. Quel soleil ? Ben, le soleil nocturne dont on parlait tout à l'heure, ou plutôt à son double, ce double animal, le grand jaguar, le gardien du soleil, ce gardien du soleil ténébreux. Vous y êtes, un animal, de la pierre, des statues, une matière, un mouvement, le temps, le travail, l'énergie. Dans les années 40, ici à la Venta, dans cette terre glaise, on cherchait des offrandes. Et tout à coup, on en a trouvé une. Une offrande qui m'a toujours touché profondément, parce que quand aujourd'hui, dans le musée d'anthropologie de Mexico, ce fabuleux musée, on voit ces 14 petites statuettes, elles ne sont pas très grandes, elles font 12, peut-être 15 cm de hauteur, et chacune d'elles a ce ton un peu verdâtre qui va jusqu'au jaune. Et au centre, il y a une plus petite statuette qui, elle, est de basalte, elle est plus rugueuse, elle n'a pas ce côté lisse et travaillé des autres. Elles sont debout, ce sont des personnages qui ont les bras collés au corps, il n'y a que la forme, si vous voulez, une sorte de fantôme de forme humanisée, mais la tête est parfaite, des yeux bridés, assez puissants. Sans l'intérieur, vous savez, un peu évidé comme cela. Des nez toujours épatés, le petit côté froncé de tout à l'heure, des bouches extrêmement dédaigneuses, des babines qui descendent très bas, et puis un crâne complètement déformé, parce que quand on était bébé, on vous écrasait pendant plusieurs semaines ce crâne afin de le déformer, oui, de lui donner cette forme tronconique, un peu comme un pain de sucre. Les 14 sont comme cela. Le 14e, bien sûr, a l'impression, donne en tout cas l'impression de discuter avec les autres. Tout ceci se passe sur un disque 33 tours, grosso modo, comme surface. Et puis derrière, vous avez six paravents étranges, des haches, des haches vertes taillées comme tout à l'heure avec quelques hiéroglyphes, quelques dessins de jaguars dessus qui sont plantés, qui étaient au départ peut-être une grande hache qui a été découpée en 6 morceaux. Oh, quelques mois de travail uniquement pour un simple découpage. On a fait ce paravent comme si on avait une scène. Une scène, une discussion entre des grands prêtres, enfin des grands personnages. On sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort. Ce personnage de basalte, qui est le seul qui vienne de terre volcanique, nous donne l'impression de converser avec tous ceux qui viennent, au contraire, de cette pierre un peu vitrifiée. La jadéite est assez curieuse lorsqu'on la touche. Elle a justement quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus ferme. Et puis, curieusement, on a enterré cette offrande sous 60 à 70 cm d'argile de couleur. Tout était planté dans un beau sable clair. Et puis on a mis, comme je le disais tout à l'heure, des couches, un peu comme de la crème sur un gâteau. On a rempli gentiment cette offrande. On a laissé les statues bien droites. Et puis, finalement, on est arrivé au niveau du sol. Et puis un jour, peut-être entre 300 ou 400 avant notre ère, quelques siècles après avoir déposé cette offrande, quelqu'un est venu et il a fait un trou. Vous savez, comme on appelle aujourd'hui ces fameuses garottes que font les chercheurs lorsqu'ils vont au tréfonds de la Terre pour voir ce que nous avons sous nos pieds. Eh bien, le précolombien a fait la même chose. Il a fait un trou comme cela sur les 60 cm et il est arrivé dans l'offrande. Il a vu qu'elle était là, il était content. Il a rebouché le trou, tout simplement. Donc, quelques siècles après l'avoir offerte à la Terre, on a voulu voir s'il était toujours là, si son pouvoir était toujours présent. Et les archéologues, dans les années 40 de notre siècle, ont découvert ce petit message. Ils ont vu que la Terre, les argiles, étaient simplement brassées sur un tout petit endroit, à peine grand comme le poing, comme si vous vouliez descendre votre main pour aller contrôler, effleurer, toucher une de ces 14 statues. Elles sont là, le pouvoir est en place, l'énergie est toujours là, votre pile est toujours chargée. Ainsi, chaque statue, chaque offrande, chaque construction, bah oui, il y a déjà plus d'une demi-heure que l'on construit, mais eux l'ont fait sur des centaines d'années, tout cela est chargé d'une force. J'ai évoqué la puissance, j'ai évoqué l'énergie humaine, tout cela a pu être transmis à ces pièces, à ces constructions, et c'est ainsi qu'on va pouvoir communiquer cette puissance, cette énergie aux forces supérieures, c'est ainsi qu'on va communiquer véritablement avec les dieux. Je crois que c'est vraiment le message, que c'est vraiment le canal qu'ont utilisé ces premiers Indiens d'Amérique. On va imiter, je l'ai dit aussi, les traits du jaguar, on va peut-être même se métamorphoser en jaguar, on l'a ressenti par ces petites statues avec cette moue étrange, et les Olmèques vont chercher à se concilier les grâces de cette bête féroce. Et quand je pense à cela, je repense involontairement à un endroit. Bon, c'est peut-être une hypothèse, mais j'avoue que je suis toujours très touché par cette construction étrange. Vous êtes toujours à la Venta et on a été chercher, une fois de plus à 100 ou 120 kilomètres de l'île de la Venta, des blocs. Mais des blocs qui sont curieux. Vous savez, des blocs qui ressemblent en fait à des grands... Comment les décrire? Vous savez, quand on prend de la simple terre ou de l'argile ou quand on prend de la pâte à modeler, voilà, ce serait la bonne image, et qu'on commence à rouler cela sous les doigts ou sous la paume de la main, on obtient une sorte de colombin, quelque chose d'assez allongé, et puis on en fait une forme assez simple. On frappe cela sur la table et puis on voit qu'il y a une face qui devient un peu plane et tout le reste qui reste arrondi, mais sans plus. Eh bien, on est allé chercher à des centaines de kilomètres, ou plus exactement à des dizaines de kilomètres, des fûts, des véritables fûts de basalte, qui, le plus long que j'ai vu, fait en tout cas 12 ou 15 mètres de longueur. Et c'est de la pierre, une pierre extrêmement concentrée, comme si on avait voulu pétrifier un morceau de bois, comme si on avait voulu transformer un poteau télégraphique en un immense morceau de pierre, et que, au lieu d'avoir du bois, comme on l'avait dans la région, on ait voulu quelque chose de plus durable, et on a pris ces morceaux de pierre, qu'on a dû tailler, bien sûr, et on les a traînés d'abord sur des radeaux, on les a ensuite déplacés à l'intérieur de l'île, sur des ronds rondin, et on a mis tout cela en place. Et ce qu'on a fait de plus étrange, peut-être, à la Venta, ce sont des palissades qui font des dizaines de mètres de longueur, où simplement on a fiché en terre des immenses fûts de pierre qui ont été taillés, soit ici, soit sur place, au lieu de la carrière, dans cet endroit de basalte dur. Et en plus de cela, on a créé un objet qui, moi, me touche, je le disais, un objet qui est curieux. C'est une cage, une véritable cage. Alors, vous pouvez la reconstruire mentalement. Elle fait 4 à 5 mètres de longueur sur 3 à 4 mètres de côté. Alors, vous mettez simplement des pieux. Vous savez, comme si on voulait planter des pieux directement dans le sol. Et par-dessus, de façon, je dirais, comme un toit de capite, vous allez poser d'autres fûts de basalte. C'est toujours de la pierre. Et finalement, vous vous retrouvez devant une cage parfaite. Complètement close, avec des... Bon, il y a quand même des petits espaces entre les fûts de 5 à 6 cm au maximum. Mais vous avez créé un espace complètement clos. Archéologiquement parlant, on s'est dit, mais qu'a pu contenir une telle cage sur un centre cérémoniel, dans un endroit aussi étrange que la Venta? Et on a retrouvé des restes d'animaux, et particulièrement de jaguars. Enfin, c'est une hypothèse. Mais essayez d'imaginer, pour quelques secondes, que vous soyez le grand mage, celui qui dirige cette première civilisation. Ça n'est plus une tribu, c'est déjà quelque chose de plus important. On va commencer à voyager sur des centaines de kilomètres, on va faire connaître ce pouvoir, cette énergie que j'évoquais tout à l'heure. Et finalement, si vous êtes un grand chef, et que dans cette cage, vous avez peut-être pu enfermer un tigre dans cette cage de pierre. Selon les restes, ça semblerait possible. On sait surtout que par des rituels comme cela, on pouvait obliger un animal comme le tigre peut-être à tout simplement libérer cet astre sacré qu'il avale chaque soir. Regardez la fourrure d'un jaguar. Regardez les yeux de ce jaguar. Cette expression extrêmement féroce. Et pensez que vous êtes indien, que vous le voyez apparaître dans la nuit ou là au coin de la forêt, et que vous pensez que ce soir, c'est lui qui va avaler le soleil, et que demain matin, dans un bain de sang aussi, il va le recracher. Là, vous avez compris tout le trajet, ce trajet de cet astre sacré qui est obligé ainsi de reprendre tous les matins sa route vitale, mais qui auparavant aura été digéré et ingéré véritablement dans cet inframonde. C'est un peu l'idée, c'était peut-être... Déjà le vœu des premiers Olmèques, c'est obliger à ce que le matin revienne, simplement en enfermant l'animal dans une cage. Vous lui donnez un ordre, vous avez une fois de plus de l'énergie, du pouvoir, mais cette fois, il est véritablement vivant. On pense aujourd'hui que l'histoire des Américains a commencé il y a 50 000 ans lorsqu'ils ont traversé le détroit de Bering, qui lui était encore gelé, qui était encore de glace. Et ces premiers nomades ont suivi ces animaux qui existaient il y a 50 000 ans, je pense aux mammouths, aux rennes. Ils sont descendus, ils ont envahi petit à petit le Canada, en passant bien sûr à travers l'Alaska, et puis les États-Unis. Là, ils sont restés nomades. Plus bas, ils ont découvert ces mêmes animaux, le cheval aussi. Et finalement, aux alentours de 8000 avant notre ère, la température a changé. La période de Worms s'est terminée. Un réchauffement complet de la planète. Des volcans qui se mettent peut-être en éruption. En tout cas, un réchauffement qui va faire disparaître ces mammouths, les grands camélidés, le tigre des sables, enfin des animaux qui faisaient très peur. Ces mammouths qui étaient au fond une réserve de viande extraordinaire dans un simple marais, comme le marais où nous étions tout à l'heure. C'est vrai qu'il suffisait de tuer un mammouth, on en avait bien pour 6 mois. Tout va disparaître. Sauf du côté des États-Unis, où il restera quelques bisons, des milliers, des millions de bisons. Vous resterez indien, vous resterez nomade. Plus bas, plus rien. Donc, l'obligation de vous intéresser à la collecte des fruits, à la cueillette des champignons, et puis encore un peu de chasse. Mais vous avez faim, il faut commencer à prendre une graine, découvrir le maïs, et petit à petit, à partir d'un petit épi qui faisait quelques millimètres de hauteur, créer plus de 1500 variétés pour vous nourrir au cours du temps. Et puis créer peut-être la première grande civilisation, peut-être là-bas du côté de l'Amazonie, peut-être là-bas du côté de l'Équateur, du côté de Valdivia, créer pour la première fois ce mythe du jaguar que j'évoquais aujourd'hui. Inventer ce jaguar qui deviendra le prédateur par excellence, c'est le seul qui est resté après 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est le seul qui soit si puissant, bien sûr. Il y a encore quelques camélidés dans le sud, un ou deux lamas, alpaca, vigogne, guanaco. Il y a un petit dindon pour le Mexique, une abeille, un petit chien qu'on va pouvoir engraisser, qui est sans poil. Mais pour commencer une civilisation, il faudra l'agriculture, il faudra s'intéresser aux saisons, il faudra regarder là-bas du côté des Olmèques, il pleut 260 jours par année dans cette jungle. Si vous plantez un grain de maïs, il est capable de pousser deux fois, voire trois fois par année. Vous disiez que c'était une terre inhospitalière? Eh bien non, pour les premiers Américains, pour ceux qui ont planté ce maïs il y a 2000, 3000, 4000 ans, c'était peut-être le meilleur endroit pour commencer à créer une civilisation et puis à mettre une nouvelle énergie en place. Une économie, une politique aussi. Allez chercher des cailloux, taillez-les, mettez-les en place, construisez un volcan en forme de cône étrange, fait de boue, vous créez un culte, vous remettez le jaguar dans sa cage, vous regardez le soleil, vous regardez aussi ses planètes, mais particulièrement Vénus, et puis un soir, 1000 ans plus tard ou 2000 ans plus tard, vous serez sur un observatoire, là-bas du côté de Chichen Itza, vous regarderez cette lune pleine qui se lève à l'horizon, vous aurez compris qu'il y a des mouvements dans les astres et que, comme Pythagore qui prétendait que c'était dans la contemplation de ce mouvement que résidait la clé de l'harmonie de l'univers, vous serez devenu un peu plus indien. Vous aurez effectivement inventé pour 2000 ans, 3000 ans, une culture jusqu'à ce que Christophe Colomb vienne un peu bousculer les jeux. Thank you.